Voilà, bonsoir. On est aujourd'hui pour. On est réunis pour le séminaire du lundi soir 18 Sivan et on est le 16 juin. Alors, tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve une fois de plus pour un séminaire. Je tiens d'abord à préciser que ce soir, le séminaire ne durera qu'une heure. C'est déjà pas mal, mais en tous les cas, il est ici à Jérusalem, 9 heures précises. Et donc, j'essayerai à 10 heures de mettre fin à cette intervention. Et je voulais d'abord vous rappeler ce qu'on est censé faire ce soir. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment compris, parce que c'est une nouveauté, et tous les commencements sont difficiles. On n'a pas véritablement eu la possibilité, par les envois de mails et à plus forte raison sur le site, d'expliquer clairement quel était le but de ce séminaire. Et donc je vais le faire, je vais l'expliquer. Et pour ceux qui vont être un petit peu surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas vraiment à cette formule-là, au moins ils le seront pour les prochaines fois, parce que c'est un genre de séminaire qu'on aura l'occasion de refaire souvent, d'autant plus qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir de nouveaux livres qui vont être à votre disposition, et il y en a pas mal qui vont arriver dans les mois qui viennent, Be'ezrat Hashem. Donc c'est un genre de soirée que l'on refera ensemble. Alors quel est le but ? Le but est que si vous avez le livre, c'est la raison pour laquelle on a attendu au moins 2 à 3 mois avant de faire ce genre de séminaire. Si vous avez le livre, j'espère que la plupart d'entre vous l'avez, le but est de me poser des questions à partir de mon livre. C'est-à-dire que j'imagine qu'en le parcourant, en le lisant, il y a certains passages que vous avez compris plus facilement, moins facilement. Il y a des passages, même si vous les avez compris, vous voudriez avoir des éclaircissements, et je pense que c'est quelque chose de tout à fait original, de tout à fait nouveau, de pratiquement, on pourrait dire, introuvable d'une autre manière ailleurs, où finalement vous avez la possibilité, tous les X temps, avec l'auteur lui-même, avec le Rav lui-même, de vous entretenir au sujet de son livre, ce qui veut dire que pour celui-là ou pour les autres, lorsque vous le parcourrez, maintenant vous saurez que vous pouvez prendre une feuille séparée ou marquer dans la marge au crayon, voilà à cet endroit-là, j'ai telle ou telle question, j'ai pas bien compris. Et lorsqu'il y aura le séminaire au sujet de ce livre, je pense qu'il y aura au moins 2 séminaires par livre, ça n'aura la possibilité, dans la mesure de nos moyens, ça donnera la possibilité d'éclaircir ce qui n'a pas été compris. Alors, encore une fois, je ne sais pas si, en ce qui concerne le séminaire de ce soir, vous avez véritablement compris que c'était de ça qu'il s'agissait. Alors, je vais attendre quelques minutes que vous me posiez une question, au moins pour démarrer le séminaire. Encore une fois, à partir du livre, je parle bien du livre « Décodons la paracha », le livre Shemot, le livre qui est en vente sur le site. Et donc, si jamais, parce qu'on ne va pas rester à attendre, si jamais les choses n'ont pas été bien comprises par tous et toutes, si jamais vous n'avez pas pensé à me poser des questions à partir du livre, alors je vous propose, puisque de toute façon le livre traite de la délivrance finale, je vous propose de me poser des questions pas nécessairement liées à ce livre, si c'est possible, des questions malgré tout liées à l'exil et à la délivrance d'Israël. Bien évidemment, on peut parler de ce qui se passe à notre époque et ce qui se passe dans le monde et ici en Israël. Et donc, je tiens à préciser encore une fois que nous ne serons ensemble qu'une heure ce soir, jusqu'à 10h, heure de Jérusalem. Voilà, donc je suis dans l'attente de vos questions. Je sais qu'il y a un léger décalage entre l'envoi et la réception chez vous, et donc je vais attendre un petit peu jusqu'à ce que vous ayez la possibilité d'écrire. Comme vous le savez, lorsque vous posez une question, vous posez une question, si c'est possible, avec de gros caractères, de manière à ce que je vois plus facilement apparaître la question sur le chat. Et bien sûr, vous essayez d'être le plus clair et le moins long possible et donner la possibilité ainsi à ce que d'autres puissent aussi poser leurs questions et que l'on puisse avancer. Voilà. Alors, est arrivée la première question de Gouravier. Pourquoi faire profil bas lors d'obscurité normale et ne pas agir comme lors des obscurités surnaturelles, à savoir se battre et faire face à de toutes nos forces à toutes les situations? Donc, je pense que vous faites effectivement allusion à une partie du livre. Précisez malgré tout quand vous posez la question que c'est bien une question à partir du livre. Je vais vous révéler un secret, je ne connais pas mon livre par cœur. Donc je ne vais pas forcément automatiquement d'abord me rappeler ce que j'ai écrit et pas forcément automatiquement comprendre qu'il s'agit d'une question à partir du livre. Mais quoi qu'il en soit, je pense que là, oui, il s'agit d'une question à partir du livre. Et je disais effectivement dans le livre que, si je ne me trompe pas, la question se réfère à la discussion qu'il y a eu entre Myriam et Amram, son père. Amram, son père, face au décret de tuer les enfants mâles qui naissaient, à renoncer à continuer à faire des enfants, en tant que grand de la génération et modèle de la génération, il s'est séparé de sa femme pour montrer l'exemple à tous et à toutes, en vertu du principe que se marier, faire des enfants est un commandement extrêmement important, mais ce n'est pas un commandement qui est plus important que préserver sa vie, comme on le sait, à part trois choses comme l'idolâtrie, la débauche et le meurtre, et dans certains autres cas, mais généralement, la vie est à placer au-dessus de tous les autres commandements, et donc en tous les cas au-dessus de celui de faire des enfants. Donc Amram s'est dit, puisque maintenant, en mettant des enfants au monde, on les met en danger, donc on n'accomplit plus la mitzvah de faire des enfants, le commandement d'avoir des enfants, de se marier jusqu'à ce que le décret passe. Est venue Myriam et Myriam lui a dit « Mais tu n'as strictement rien compris, on est en période de délivrance et c'est précisément en faisant fi, en allant de toutes nos forces contre le décret, en continuant à risquer nos vies et en risquant véritablement nos vies et celles de nos enfants, qu'on va déclencher le processus de la délivrance. » Alors j'expliquais dans le livre que Myriam justement a été capable de faire la différence entre des épreuves standards et des épreuves complètement hors normes, comme celles qu'ils étaient en train de vivre. Et elle a compris que quand les épreuves sont complètement hors normes, c'est un signe comme quoi on est dans ce qu'on pourrait appeler les douleurs de l'accouchement, qu'on est en train de se préparer à un dévoilement messianique. Et en ce qui concerne l'analyse de Myriam, elle avait parfaitement raison, puisqu'effectivement, en continuant à faire des enfants et en bravant le défi et le décret, c'est finalement comme ça que Moshe, que Moïse est né. Alors, pour ceux qui ont écouté le cours de ce matin, qui est déjà sur le site, je disais aussi qu'on vit des événements qui sont tout à fait particuliers et hors normes depuis de nombreux mois, en particulier en ce qui concerne les décrets sur les enfants. Et un de mes élèves a mis en évidence que ça ressemblait malheureusement, étrangement, à ce qui s'est passé à la veille de la naissance du Mashiach, du Messie en Égypte. Et donc, j'ai en tous les cas mis le doigt sur le fait qu'effectivement, on vivait des choses qui ne sont pas standards depuis de nombreux mois. Et ça peut être, avec l'aide du maître du monde, ça peut être annonciateur, effectivement, d'une avancée messianique extrêmement forte. Alors la question, je reviens sur la question, était pourquoi faut-il attendre de se battre et faut-il attendre des épreuves hors normes pour se battre de toutes nos forces? Il y a effectivement différentes manières de répondre à cette question. La réponse que je choisirais, mais croyez-moi, c'est loin d'être la seule, c'est parce que le judaïsme ne se veut pas une religion fanatique. J'entends par fanatisme le jusqu'au boutisme et dans n'importe quelle circonstance. La loi, le service divin au-dessus de toute raison, au-dessus de toute logique, au-dessus de toute limite. Non, parce que les religions qui mettent le service divin au-dessus de toute limite, en toute circonstance, sont des religions qui ne peuvent en aucun cas échapper à l'horreur du fanatisme, de l'intolérance, du dogme et finalement de la monstruosité. Et c'est pour ça que le judaïsme, pour ceux qui suivent mes cours depuis longtemps, savent que c'est la sagesse de l'équilibre, la sagesse du juste milieu, la sagesse de la synthèse entre finalement l'exigence divine et la réalité humaine, entre l'idéal et le pragmatisme, entre le ciel et la terre, entre le corps et l'âme. Et le judaïsme sait nous indiquer quand il faut être jusqu'au boutiste, et donc faire preuve d'une certaine manière d'un certain fanatisme, en ce sens que je vais jusqu'au bout sans concession, et quand au contraire il faut flatter la dimension humaine, la dimension naturelle, c'est-à-dire tenir compte de la réalité avec plus de pragmatisme, avec plus de logique et de retenue. Alors évidemment, ce n'est pas ni à vous ni à moi de décider quand il faut aller jusqu'au bout et quand il faut de la retenue. C'est bien sûr les maîtres d'Israël qui nous indiquent les mesures à suivre, quand elles doivent être dépassées et quand il faut au contraire être à l'intérieur des mesures de ne pas les dépasser. Mais dans le livre, j'explique très très schématiquement, et bien sûr, encore une fois, c'est à nos maîtres de nous donner l'indication lorsque la situation se présente, mais très schématiquement, j'ai expliqué qu'en période de délivrance, l'attitude d'Israël doit être jusqu'au boutiste. Ça veut dire donc ne pas tenir compte des limites et des mesures de ce monde et aller jusqu'au bout en dépit même d'une certaine logique et de la raison, quitte même à risquer sa vie, parce que c'est de cette manière-là que l'on déclenche la délivrance, que l'on prépare la matrice messianique. Et dans une période plus standard où on n'a pas de signes précis et importants et qui nous laissent croire et penser qu'on se trouve en période de délivrance, alors dans ces périodes-là, au contraire, nos maîtres nous demandent d'être beaucoup plus posés, d'être beaucoup plus raisonnés pour justement éviter les pièges d'un fanatisme qui guette la plupart des religions. Alors je continue. Martine Després, l'enlèvement, ce n'est pas une question à partir du livre. Essaie dans la mesure du possible de rester sur le livre, mais je répondrai quand même. L'enlèvement des trois jeunes est une sacrée contradiction. Pas de péridurale pour Israël. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Donc, on continue. Levana 68. Les noms Shemot, les noms qui limitent ce matin avec Betsalel. Vous avez parlé de l'importance du nom que l'on porte. Que se passerait-il si on parvenait à ne plus avoir de nom? Sortirait-on de la notion du fini? Et avec tout le respect, je n'ai pas très très bien compris la question. Est-ce que vous pouvez, d'une manière plus simple, me résumer, m'expliquer ce que vous entendez par là? J'essaye de relire. Vous avez parlé de l'importance du nom que l'on porte. Que se passerait-il si on parvenait à ne plus avoir de nom? On ne peut pas ne pas avoir de nom. Et ai-je dit que le nom évoquait le fini et nous limitait? Je n'ai pas souvenir de l'avoir dit. En tous les cas, continuez à m'adresser vos questions puisque je n'en ai plus sur le chat. Alors, question sur la délivrance de Cléo. De quelle manière pouvons-nous reconnecter le cœur de tous les humains au cœur d'Israël ? Bien évidemment, c'est une question extrêmement vaste qui englobe d'une certaine manière tout ce que l'on peut dire sur l'exil et la délivrance. Alors évidemment, je pourrais m'en sortir en répondant d'une manière très simple, mais qui contient tout. Et pour reconnecter le cœur de tous les humains au cœur d'Israël, il faudrait d'abord qu'Israël commence à se reconnecter à son propre cœur, c'est-à-dire à sa propre identité. Le grand drame d'Israël, et on ne peut pas lui en vouloir parce que c'est déjà, et je pense que toute personne honnête qui a la grande image, qui arrive d'une certaine manière à suivre l'histoire d'Israël depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, ne peut être que bouleversé, ne peut être qu'étonné en voyant ce peuple avoir réussi à traverser un exil aussi long, aussi horrible, aussi sombre, aussi atroce, aussi cruel, et se retrouve aujourd'hui d'une certaine manière sain et sauf à nouveau sur sa terre qu'il a reconstruit en à peine 60 ans. Et c'est quelque chose qui est absolument inimaginable, phénoménal. Donc, c'est évident que les trois quarts et plus du verre sont pleins. Malgré tout, il est tout à fait normal qu'après 2000 ans d'exil, qui ont d'ailleurs commencé bien avant ce dernier exil, car depuis la destruction du premier temple, donc depuis pratiquement 2600 ans, la grande majorité d'Israël n'était plus sur sa terre. Et donc, vous imaginez que, en étant pendant si longtemps en contact avec d'autres mentalités, d'autres civilisations, d'autres peuples, d'autres religions, en même temps en étant privé de sa terre, donc de sa véritable identité, qui ne peut se dévoiler que lorsqu'Israël est réuni sur sa terre, vous imaginez que l'on revient après 2000 ans d'exil et plus malade, véritablement convalescent, malade. Bien que je viens de dire que c'est déjà en soi un miracle inimaginable d'être là et dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes malades, ce que j'entends par maladie est que nous avons un mal fou à reconstruire notre identité, à revenir vers notre propre cœur qui est d'ailleurs la Torah dans son authenticité la plus parfaite, d'où je sais que la Torah est le cœur d'Israël. Vous prenez la toute première lettre de la Torah, la toute dernière lettre, ces deux lettres, la toute première et la dernière forment le mot cœur. La Torah c'est le cœur d'Israël, lève en hébreu, cœur en français. Et donc, il faut d'abord que nous revenions à notre identité, parce que très techniquement et très simplement, nous avons aujourd'hui ici en Israël des blancs, des rouges, des noirs, des jaunes, nous avons une population qui vient d'Éthiopie et qui a encore quelques années vivait avec un retard de plusieurs siècles sur les juifs venus d'Europe ou d'Amérique. Et vous imaginez, en un vol d'avion, deux mondes se sont retrouvés sur une même si petite terre. Et encore une fois, les Éthiopiens qui vivaient encore comme il y a plusieurs siècles. Et tout d'un coup, ils se retrouvent dans un monde ultra moderne avec des portables, des télévisions, des avions, des voitures. Pour ne donner que cet exemple-là, vous imaginez tout le travail qu'il faut pour reconstruire une identité unique, même si elle a plusieurs facettes. Et même par rapport au monde européen ou occidental, un juif venu de Russie est très très différent d'un juif venu d'Amérique. Et les deux sont très différents d'un juif venu du Maroc ou à plus forte raison d'un juif venu d'Irak ou de Syrie. Donc tout ça, ça met du temps. Et seulement lorsque nous serons parvenus à reconstruire notre identité et qu'on se sera mis d'accord sur le modèle qui nous unit véritablement, à ce moment-là, nous pourrons faire notre travail de ce qu'on appelle en hébreu, dans le langage des prophètes, « or lagoyim », d'être un rayonnement et un modèle pour les nations, et automatiquement, la connexion pourra à nouveau se faire. Malgré tout, je tiens à vous dire que, et ne serait-ce que ce site, qui n'est que l'ombre d'une goutte de l'océan. Et combien d'autres tentatives, initiatives du même genre, comme les nombreux livres traduits dans toutes les langues, ou d'autres sites, ou d'autres rencontres, ou d'autres séminaires. Malgré tout, le processus des retrouvailles entre ce qu'il y a de bon et de bien au milieu des nations et ce qu'il y a de bon et de bien au milieu d'Israël, le processus des retrouvailles, comme vous le savez, est déjà bien entamé. Vous avez tous vu à titre d'exemple, mais c'est un parmi des milliers, croyez-moi, la rencontre avec notre ami Claude qui était sur le site. Et il y en aura d'autres et vous aurez encore d'autres surprises, d'autres interviews sur le site qui vont suivre et vous serez très très étonnés de voir comment finalement les deux mondes sont en train de se réconcilier, de se reconstruire, bien que je ne me fais aucune illusion et il y aura encore d'énormes perturbations sur le parcours de cette reconstruction. Je continue à lire les questions. Alors, Zeina, bonsoir Rav. Un passage m'a surprise. Vous semblez parler d'un événement que Dieu annonce à son peuple et parler de miracle pour ce même événement. Peut-on parler de miracle alors qu'en même temps Dieu nous dit ce qui va arriver? Avec tout le respect, je ne sais pas. J'ai eu la question, je l'ai découverte en même temps que je la lisais. Je n'ai pas très très bien compris à quoi vous faites allusion. Un passage m'a surprise. Vous semblez parler d'un événement que Dieu annonce à son peuple et parler d'un miracle. Précisez la question. Alors, Sarah, sur la paracha Béchalar, page 125, la délivrance finale se fera où dans la Torah, ce vous écrivez précisément aux yeux d'Hachem, chacun de nous a la même importance. J'ai entendu dans un cours de Tanya qu'un Baal Teshuvah, c'est comme une feuille que l'on a écrite. Oui, mais quelle est la question ? Je suis désolé, ne m'en voulez pas, si je ne suis peut-être pas en forme, je n'arrive pas à comprendre vos questions. En une phrase, posez une question claire. Je reviens à Lauriane. Dans le chapitre, les 10 commandements, le premier titre est « L'âme de la Torah parle au peuple d'Israël ». Est-il possible qu'elle parle aux non-juifs aussi? Si oui, dans quel cas? Si non, pourquoi? Évidemment que l'âme, c'est-à-dire la matrice divine, puisque fondamentalement l'âme est une partie du divin, est une matrice divine, éventuellement que l'âme parle aussi aux nations. Il faut une fois pour toutes, comme je cesse de le dire, que les nations comprennent qu'elles ont un rôle, un devoir, une mission, une responsabilité énorme dans l'avancée, la réalisation du projet divin. Le grand problème de l'humanité, c'est qu'on a perdu des millénaires. On a perdu des millénaires parce que les nations ont été emportées par des falsifications et des fausses religions. On a perdu des millénaires parce que Israël n'a pas été à la hauteur et a été dispersé au milieu des nations et s'est retrouvé en exil depuis des millénaires. En bref, tout le monde est passé à côté de ce qu'il aurait dû faire depuis le départ. En vérité, pour ceux qui suivent mes cours, vous le savez, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'accident. Finalement, tout ce qui devait se passer est ce qui se passe et l'histoire suit son cours. Il y a l'histoire vue côté Dieu, il y a l'histoire vue côté homme. Et vue côté Dieu, ne vous inquiétez pas, il maîtrise l'histoire et tout ce qui se passe est ce qui doit se passer. Mais en tous les cas, vue côté homme, il est clair que nous n'avons fait que des erreurs, les nations de leur côté, Israël du sien, et surtout cette brisure atroce, surtout pour nous, juifs, qui s'est installée entre Israël et les nations, et qui fait que pendant des siècles et des millénaires, les nations ne voulaient rien entendre des juifs, et les juifs, bien évidemment, se refusaient de dire quoi que ce soit aux nations. Maintenant, après tout ce retard accumulé, et la technologie entre autres, et l'histoire et le contexte font que maintenant les ponts peuvent se construire entre les nations et Israël, des échanges se font, et donc automatiquement, bien évidemment que, à mon humble niveau, j'assiste, et d'une manière générale, on assiste à une prise de conscience inimaginable des non-juifs, et du retour finalement, du retour des non-juifs à ce devoir, à cette mission qui a été mise complètement de côté, malheureusement pendant des millénaires. Et donc oui, l'humanité petit à petit se reconstruit, oui, les liens se reconstruisent entre Israël et les nations, et oui, les nations peuvent entendre cette voix et entendre dans leur langage à eux ce qui est véritable leur mission. Ce qui est véritablement leur mission, il est clair, comme je le dis souvent, que les nations ont intérêt, et de toute façon la réalité le prouve, ont intérêt à se coller, à s'attacher au tzitzit des Juifs, comme l'ont d'ailleurs indiqué les prophètes, parce que c'est précisément ensemble, dans la mesure où de toute manière c'est Israël qui est dépositaire, qui a hérité, qui est le dépositaire de la Torah, c'est donc absolument évident que ça doit passer par Israël, bien que je ne cesse de dire que le rôle d'Israël, c'est de révéler aux nations quelle est leur propre identité, leur propre rôle, parallèlement à Israël. Il ne s'agit pas ici de fusion et de confusion, et encore moins d'une suprématie d'Israël par rapport aux nations. Mais ça doit passer par Israël, c'est à Israël de révéler aux nations, finalement, quelle est leur part de mission dans le projet divin. Alors, on continue. On est à Marcy. De quelle façon sait-on que l'on est connecté à son âme divine? Par quoi cela s'exprime-t-il véritablement? Donc, je résume la question plus simplement. Comment peut-on savoir qu'on est connecté à son âme divine? Dans la mesure où l'âme est elle-même une partie du divin, une partie de Dieu, si vous voulez, j'aime pas ce genre de traduction en français, comme vous le savez, mais bon, on est comme on est, on traduit avec malheureusement la pauvreté des mots qui sont à notre disposition, mais quoi qu'il en soit, l'âme, dans notre tradition, est une partie du divin, donc automatiquement, être connecté à son âme, c'est sentir qu'on est connecté véritablement à Dieu. Alors vous me direz, je n'ai fait que déplacer la question, et ça veut dire quoi être connecté à Dieu? C'est très simple, c'est ressentir constamment un flux de vie, un flux de force, un flux de courage et un flux de puissance, et un flux de morale et de spiritualité. Vous remarquerez que j'ai dit morale et spiritualité en dernier, parce que effectivement et essentiellement, être connecté au maître du monde, c'est être connecté en permanence à un flux qui nous renouvelle, qui nous renforce, qui nous donne et qui nous procure cette puissance, cet espoir, ce renouvellement constant, et qui nous remplit d'idéal et qui nous remplit de volonté pour réaliser notre mission sur terre, et qui nous permet de nous sentir très 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 fort attachés à la Torah, et à travers la Torah être attachés au maître du monde. Donc effectivement, c'est pas simplement le fait de faire les mitzvot, de prier et d'étudier, parce que si on le fait dans un état d'esprit de faiblesse, de tristesse et de pauvreté intellectuelle et physique, c'est pas une vraie connexion. Être connecté à Dieu, c'est être puissant, c'est être fort. Et ça, c'est le premier signe réel d'une connexion. Puissance et forte, et force, dans le cadre de la moralité, de la spiritualité, bien évidemment. Je continue. Alors, j'ai été fort padrigue. J'ai été fort traumatisé par le crime de 4 personnes au musée de Bruxelles. Comment Hachem peut-il permettre que de telles choses arrivent encore aujourd'hui? Ne m'en voulez pas si je vous répondrai que je suis personnellement beaucoup plus traumatisé par les images qui arrivent de ces centaines de soldats irakiens massacrés par les islamistes, je sais pas comment qu'on les appelle, par les sunnites, par les... peu importe. Je suis beaucoup plus traumatisé encore par les images de ces milliers de femmes et d'enfants massacrés en Syrie, où je suis encore plus traumatisé par les images qui nous arrivent de ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont massacrés en Somalie, au Nigeria, etc. Ça veut dire que, avec tout le respect, ne le prenez pas mal, et vous serez sans doute étonné que ce soit un rabbin juif qui vous réponde comme ça. Oui, c'est horrible ce qui s'est passé à Bruxelles, mais d'un autre côté, je veux dire, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui sont massacrés tous les jours. Et, alors la question, on ne peut pas la limiter uniquement à pourquoi 4 juifs. D'abord, c'est pas 4 juifs, c'est 2 juifs et 2 non-juifs, si je ne me trompe pas. Dans ce fameux musée, Et pourquoi parler de quatre quand chaque seconde que nous parlons ce soir, des milliers d'hommes et de femmes sont massacrés partout dans le monde, et j'ai sans doute oublié de citer beaucoup d'autres endroits. Alors qu'est-ce que signifie la question, pourquoi Dieu permet-il de telles choses arrivent encore aujourd'hui? J'avoue que je ne comprends pas. Et ça a toujours été comme ça, et quel est le rapport avec aujourd'hui plus que hier ou plus que demain? Ça veut dire évidemment que la question est une question, mais ce que j'essaye de vous montrer dans ma réponse, qui n'en est pas vraiment une, c'est que vous ne pouvez pas limiter cette question à ce qui s'est passé dans le musée, parce que cette question se posait hier et avant-hier et avant-hier et à chaque seconde, et aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'elle se posera encore très 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 longtemps. Donc, on continue. Lev-Tov, vous montrez bien Bila et Zilpa comme mère d'Israël, pourquoi ne les cite-t-on pas généralement avec Sarah, Rivka et Rachel? Je vous répondrai d'une manière très simple et encore une fois très 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 limitée. Je pense que dans le passage auquel vous faites allusion, je précise bien que la grandeur de Bila et de Zilpa ne se dévoilera véritablement qu'au moment de la délivrance finale. Ce qui veut dire que ce sont deux mères qui sont encore complètement secrètes. Deux mères que l'on voit dans notre tradition pendant tout le temps de l'histoire d'Israël jusqu'à la délivrance finale comme des mères servantes qui ne sont pas des mères à 100% ou pas des épouses à 100%. Bien sûr, c'est une grande erreur. Je montre dans ce livre que leur secret justement fait partie des secrets qui se dévoileront au moment de la délivrance finale. Donc, elles sont comme toutes ces choses qui attendent leur moment. Et effectivement, elles, comme quantité d'autres choses, dévoileront leur véritable grandeur après que le Mashiach se soit lui-même dévoilé. Je continue. Alors, pensez-vous que... Alors, ce que je pourrais aussi vous demander, c'est d'arrêter peut-être un petit instant d'écrire des questions. Maintenant, c'est moi qui vous demande d'arrêter d'écrire des questions, parce que je dois absolument me tenir à ce que j'ai d'arrêter cette soirée dans une demi-heure, il est 32 maintenant, et je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, laissez-moi au moins répondre aux questions qui sont écrites pour l'instant. Alors, pourquoi avez-vous commencé? Alors, pensez-vous que les nations sont arrivées à maturité pour comprendre leur travail et pour s'unir enfin à Israël? Ruth 29. Une grande partie des nations est arrivée à maturation, mais je répondrai de manière positive et négative. Positive, oui, parce que le temps, le moment, le contexte, l'histoire et beaucoup d'autres choses font que une grande partie des nations est prête à s'unir et se réunir à Israël. En tous les cas, l'identité juive authentique qui elle-même est en train de se reconstruire, parce que le Israël de demain n'est pas le Israël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, on assiste et on assistera de plus en plus aussi à un phénomène terrible et dramatique dont nos maîtres tout au long de notre histoire n'ont cessé de nous parler et de nous mettre en garde. Au fur et à mesure qu'on s'approche de la délivrance finale, et tout ce qu'il y a de monstrueux dans les créatures à forme humaine va se dévoiler de plus en plus. Je pense que la première étape de ce dévoilement a été avec la Shoah, la dernière guerre mondiale, et ce n'était pas la fin d'un cycle, mais le commencement de quelque chose. Je ne suis pas en train de dire qu'à Dieu ne plaise qu'il y aura une nouvelle Shoah, mais je suis en train de dire ou de confirmer ce que nos yeux voient jour après jour, comme quoi la monstruosité des créatures à forme humaine, vous me connaissez maintenant, et surtout après plusieurs cours, que nous n'avons pas le droit d'appeler ces choses-là des humains, mais parce que quand on dépasse tout ce que l'entendement peut accepter en cruauté et en monstruosité, appeler ces choses-là des humains, c'est une insulte qui ne peut en aucun cas être pardonnée, une insulte adressée au maître du monde, d'oser penser que ce sont des créatures divines ou descendantes de Adam. Mais bon, j'ai déjà parlé suffisamment de ces notions-là, j'en suis même un petit peu fatigué et lassé. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure que nous approchons de la reconstruction réelle de l'homme, finalement, toutes les saletés qui existent dans ce monde se dévoilent, elles aussi, de plus en plus fort. Et parce que c'est le dernier combat, finalement, entre l'humain et les choses, et les monstres. Et c'est la raison pour laquelle on voit de plus en plus aujourd'hui les monstres relever la tête et commettre des crimes, des massacres et des atrocités un petit peu partout dans le monde. Et donc, oui, d'un côté, on va vers quelque chose de très positif, mais en même temps, il faut savoir que jusqu'à ce que l'on soit complètement, complètement débarrassé de ces saletés, jusqu'à ce que finalement le monde soit nettoyé de ces monstres et de ces créatures horribles qui sèment la mort et massacrent à bout de bras partout où ils trouvent quelque chose et quelqu'un qui, selon leur définition à eux, ne correspond pas à leur vérité à eux, lorsque ces créatures auront disparu, et je pense qu'on a encore pas mal de travail devant nous, seulement alors on pourra véritablement comptabiliser ce qui reste d'êtres humains sur Terre et parler de la véritable reconstruction de l'humanité. On a encore beaucoup, beaucoup de travail devant nous. Alors, encore quelques questions. Pourquoi, Rav, avez-vous commencé par Shemot et non Bereshit? Tout simplement parce que c'est comme ça que les choses se sont faites. Bereshit va sortir très, très prochainement. Alors, Encore une question. Je n'ai de libellule. Je n'ai pas fini le livre, mais vous dites que le Mashiach ne peut arriver que par la nation et non par le peuple. Donc laquelle est la plus importante, le peuple ou la nation? La nation est beaucoup plus importante. C'est-à-dire, le peuple, c'est Israël en exil. La nation, c'est Israël revenu sur sa terre. Comme je l'explique très, très, très longuement dans le livre et surtout dans beaucoup de cours. Alors, Jackie. Que signifie ce passage du Zohar, l'arbre de vie? L'arbre de vie s'étend du haut en bas et il est le soleil qui illumine tout. L'arbre de vie fait tout simplement allusion en gros à ce qu'on appelle la Torah du Sod, les secrets de la Torah, mais essentiellement à la Torah du Mashiach. La Torah du Mashiach s'appelle Etz Achayim, l'arbre de vie ou Torah Trahim ou la Torah de vie. Mais dans le langage de la Torah, c'est Et Sachayim. Et quand la Torah du Mashiach se dévoilera dans toute sa puissance, on s'apercevra qu'elle est comme un soleil qui illumine la terre tout entière. Une question de Marcy à nouveau. Rav, je suis moi aussi traumatisé que des Juifs soient encore attaqués chaque jour alors que nous venons. Il n'y a pas si longtemps, nous avons eu la Shoah. Alors quel est le message que vous nous adressez? Car tout est message. J'ai commencé à parler de cette chose-là ce matin, en partie. Peut-être il y aura, j'imagine, mais ce n'est pas moi qui décide, je ne prépare pas mes cours à l'avance dans le sens universitaire du terme. Demain, je parlerai d'eux, aujourd'hui, je vais parler d'eux. Ce n'est pas du tout mon style, mes cours. Sont généralement le produit d'une inspiration liée souvent à une situation, à un contexte très précis, donc je ne sais pas aujourd'hui de quoi je parlerai demain, mais en tous les cas, j'imagine que vu le contexte, la notion que j'ai commencé à expliquer ce matin sera sans doute abordée encore une ou deux fois dans les jours qui viennent, donc je vous laisse en suspens, en ce sens que c'est un sujet que l'on a commencé à traiter, que l'on continuera encore à traiter. Malgré tout, ce que je peux vous dire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, au sujet d'une question proche de la vôtre, rien ne peut être comparé en termes de souffrance et d'atrocité à l'histoire juive. C'est vrai. Surtout à l'histoire juive contemporaine, celle de la Shoah. Mais n'oublions pas, malgré tout, qu'aujourd'hui encore, et aujourd'hui surtout, des centaines de milliers de non-juifs souffrent d'une manière atroce des mains de monstres qui se réclament de je ne sais quel fanatisme. Et la souffrance aujourd'hui est de loin, n'est pas de loin, ou je ne sais pas comment on dit, n'est pas aujourd'hui l'apanage d'Israël uniquement. Bien que chez nous et pour nous, ça reste toujours très différent de partout ailleurs. Ce n'est pas le sujet maintenant d'expliquer ce à quoi je fais allusion. Mais n'oublions pas ce qui se passe en Afrique, n'oublions pas ce qui se passe en Syrie, n'oublions pas ce qui se passe en Irak, n'oublions pas ce qui se passe partout en vérité dans le monde, et simplement qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, les pires atrocités, en ce moment où je parle du moins, ne sont pas commises à l'égard des Juifs. On continue. Alors, il y a une question. Pour préciser ma question, est-ce qu'aujourd'hui la nation, avec notre retour, devient notre devoir encore plus important que notre appartenance à notre peuple? Oui, si je comprends bien la question, je ne cesse de le dire. Aujourd'hui, le véritable devoir d'un juif est de venir en Israël et d'aider à la reconstruction, au renforcement de sa nation sur terre. Je sais très bien que, malheureusement, mon avis n'est pas partagé par tous. Ça ne me dérange pas. J'invite ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire de réétudier profondément et intelligemment la paracha de la semaine dernière sur les explorateurs. Et quoi qu'il en soit, c'est pas ici le débat, mais puisque c'est moi qui suis interrogé, je dis et je redis, je ne cesserai de dire que chaque juif qui n'a pas une raison extrêmement valable pour ne pas venir renforcer son peuple en tant que nation ici sur sa terre, devra rendre des comptes de ce qu'il a fait pour lui et surtout de ce qu'il a causé comme faiblesse et affaiblissement à son peuple, parce que sa présence manquait. Donc c'est effectivement le devoir priorité, la priorité des priorités aujourd'hui plus que n'importe quel autre commandement. Alors pourriez-vous éclaircir, Lev Tov, s'il vous plaît, la notion qu'il faut vite faire teshuva avant Mashiach? Que se passera-t-il pour ceux qui ne l'auront pas fait? Alors, comme il est 42 et que je suis arrivé à la dernière question, j'espère que je n'en ai pas sauté, vous pouvez encore me poser une ou deux questions maximum avant la fin de ce séminaire. D'ailleurs, bon Hachem, ça se passe très bien, ça s'est très bien passé, je suis très très content de ce séminaire et finalement, je vois qu'il valait vraiment la peine et que vous avez parfaitement compris avec très peu d'explications ce qui devait se passer ce soir, puisque la plupart d'entre vous ont posé effectivement des questions liées au livre. Alors, je reviens maintenant sur la question. Il y a une tradition qui dit qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle le Mashiach tarde à venir, entre autres, c'est pour permettre encore et encore et encore, non seulement aux Juifs de faire Teshuvah, mais aussi aux étincelles juives perdues au milieu des nations de se réveiller et de revenir par le biais de la conversion. Et donc, ce qui veut dire soit pour favoriser encore de nombreuses conversions, pour permettre encore de nombreuses conversions, ou pour permettre de nombreux retours de juifs à la Torah, c'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles le Mashiach tarde à venir. Maintenant, quoi qu'il en soit, bon, ils ne reviendront pas tous avant qu'ils ne se dévoilent, donc est-ce qu'on en a pris encore pour des millénaires? La réponse est simple, elle aussi. Nos maîtres disent dans le Talmud que Et ça ne va pas être fini au moment où il va se dévoiler. Le dévoilement va durer peut-être plusieurs mois, plusieurs années, voire juste entre le début du dévoilement et la fin du dévoilement, avec quantité d'événements liés justement au processus du dévoilement. De la même manière qu'un enfant qui sort du ventre de sa mère, ça prend plusieurs minutes, et des fois l'accouchement dure plusieurs heures, à l'échelle de l'histoire, ça peut durer plusieurs années ou voire plusieurs décennies. Pendant toute la période du dévoilement, là aussi, ils vont continuer, parce que là, les événements seront très très forts et très significatifs. Donc pendant toute la période du dévoilement aussi, ils vont continuer à faire teshuva des centaines de milliers de juifs, et à se convertir des centaines de milliers de non-juifs. Là où on ne pourra plus faire teshuvah et plus se convertir, c'est quand le processus sera terminé. Ça veut dire reconstruction du temple et reconnaissance universelle de la royauté du Mashiach, et à travers lui la royauté d'Hachem, et surtout la disparition de tous les monstres. Et c'est seulement à ce moment-là que véritablement, on pourrait dire, l'ère messianique s'impose, et à ce moment-là, il n'y a plus de place pour les conversions et pour la tshuva. Mais ne nous inquiétons pas, le processus sera tel que tous ceux qui doivent revenir seront revenus avant que ça soit terminé. Alors, encore une question. Est-il vrai, Lauriane, est-il vrai qu'à la venue du Mashiach, le monde, les corps terrestres disparaîtront dans leur forme actuelle? Non. Ce n'est pas vrai en ce qui concerne la venue du Mashiach, mais c'est vrai en ce qui concerne l'après-résurrection. Ne me demandez pas ce qui va se passer, parce que qui vivra verra. Mais quoi qu'il en soit, l'époque messianique et post-messianique est une époque dans laquelle nous continuons à vivre avec le corps et le monde tel que nous le connaissons. Bien sûr, ça ne sera pas le même monde sur le plan moral et spirituel, mais quoi qu'il en soit, le monde ne change pas de forme. Ce n'est qu'après la résurrection, et ça peut être bien après l'époque messianique, certains maîtres disent que c'est même 1000 ans après, ce n'est qu'en tout cas qu'après la résurrection que là nous rentrons dans une dimension complètement nouvelle, mais qu'importe ce que ce sera, ça sera sans doute très bien, qui vivra verra. On a encore une question. Quel est le message fondamental que nous devons retenir de la paracha Shemot? Le message fondamental, c'est une très bonne question, le message fondamental est que l'essence du judaïsme, l'essence d'Israël, c'est la liberté. Donc la Torah est liberté, la mission d'Israël est liberté, et l'avenir du monde est liberté. Maintenant le problème est, qu'est-ce que nous entendons par liberté? Alors ça aussi, je l'ai déjà clairement défini dans de nombreuses interventions ou par écrit. La liberté, c'est pas je fais ce que je veux, c'est je fais ce que je dois faire. Et j'arrive à réaliser ma mission, c'est-à-dire j'arrive à réaliser le sens de ma vie, j'arrive à donner un sens à mon existence. Parce que faire ce que je veux, c'est me détruire. C'est forcément et nécessairement passer complètement à côté de ce que j'aurais dû être et de ce que j'aurais dû faire. Le problème, c'est que nous avons tous une raison d'être, une raison de vivre, c'est-à-dire que une mission à accomplir. Parce que si le maître du monde a décidé de nous permettre d'exister, c'est qu'il nous a confié quelque chose. Mais le grand problème, c'est que nous avons 1 milliard de mauvaises raisons de ne pas être ce que nous devrions être. Soit des raisons très techniques, comme on est pris par son travail, on est pris par ci, on est pris par ça, on est pris par les modes, on est pris par la pensée ambiante, on est pris par on est pris par tout ce qui nous éloigne de notre identité. Alors le peuple juif a reçu la Torah, parce qu'en recevant la Torah, il a reçu les forces et la force d'être ce que l'on doit être. Et ça, c'est la véritable liberté. Laissez-moi être ce que je dois être. Et toutes les forces contraires s'acharnent pour empêcher un homme de devenir ce qu'il doit être. L'homme en général, et chacun d'entre nous en particulier, au niveau de la mission particulière qui m'a été confiée. Donc le peuple juif, en sortant d'Égypte, en commençant son histoire, a entrepris finalement ce long voyage et en quête de la liberté véritable, la liberté essentielle qui est la construction de l'homme et la construction d'un monde qui est à la hauteur de la vie qu'on lui a confiée. Encore une question. Rav, Ariel 57, comment pouvons-nous faire accélérer le temps et délivrer ceux qui souffrent, puisque tout le monde entier, par extension, souffre à leur niveau? C'est une question très vaste, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais je répondrai d'une manière juste, bien qu'insuffisante. Commençons d'abord par nous libérer nous-mêmes, commençons d'abord par être des torrents ou des sources ou des cascades de force, de lumière, d'espoir, d'optimisme, de joie, commençons par politiquement correct, merci. Commençons d'abord, nous, par nous-mêmes, à être une source d'inspiration pour notre entourage. Et je pense que quand encore un seront devenus des sources ou des torrents ou des cascades ou des fleuves d'inspiration et de force pour les autres, automatiquement encore un, et on amènera des dizaines, des centaines, des milliers d'autres à suivre notre chemin. Et tous les jours, on vérifie ce que je suis en train de dire. L'exemple très connu rapporté par nos maîtres, c'est l'exemple d'une lumière, d'une allumette, d'une bougie que tu allumes dans un endroit qui était obscur. Tu rentres dans une grande salle où il n'y a pas de lumière, tu allumes une seule bougie, tu éclaires toute la salle. Ça veut dire qu'avec un petit peu de lumière, tu repousses énormément d'obscurité, selon l'expression connue de nos maîtres, « Me'at mina or docha arbe mina chosher ». Un petit peu de lumière repousse énormément d'obscurité. Donc on est chacun d'entre nous ce petit peu de lumière qui, en s'allumant, peut repousser énormément d'obscurité. Alors, il est 50, je vous accorde encore 5 bonnes minutes si vous avez encore une question, et sinon je conclurai par moi-même. J'attends encore quelques minutes. Est-ce que vous avez encore une question? Est-ce que vous avez encore une question? Il y a toujours ce problème du petit décalage entre moi et vous, ce qui fait que on a encore une question de Marcy, et après je conclurai. Que Dieu nous ramène ses enfants magnifiques, sains et saufs. Ce n'est pas une question, mais effectivement, Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du Monde. Alors, bon, alors écoutez, finalement, c'est moi qui vais conclure. J'attends encore une minute. Il n'y a pas de questions. Alors, finalement, je ne répondrai plus aux questions et je vais conclure parce qu'il est déjà très, très tard. Donc, la conclusion, d'abord, je vous félicite. Je suis très content, moi aussi, de ce petit séminaire. Après tout, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Et je vous signale que je vais être absent à partir de la semaine prochaine. Ça sera annoncé sur le site, mais à partir de mercredi prochain, je serai absent pour une dizaine de jours. Donc, profitez-en pour revoir des cours, pour réviser, pour approfondir vos connaissances. Il y a tellement de cours sur le site. Je tenais à vous dire aussi qu'on est en train de lancer, de renforcer le lancement de la rubrique ou de l'application e-book. Pour l'instant, nous n'avons un e-book que sur le même livre de Shemot, mais encore avant mon départ, je vais mettre un autre livre en e-book pour l'instant, un livre extraordinaire, un livre que j'ai déjà sorti il y a quelque temps, mais qui a été épuisé un peu partout dans le monde et que je vais remettre en e-book d'ici quelques jours. C'est une formation pour la vie, un livre qui parle de tout ce qui permet la construction d'un couple, de l'amour, du respect entre un homme et une femme, aussi à l'intérieur d'une famille. C'est un livre assez extraordinaire et qui a déjà eu un succès incroyable un peu partout dans le monde et qui était épuisé, que je relance. Pour l'instant, je le relance en e-book. Je vous invite à vous le procurer, ça vous permettra pendant mon absence de 10 jours d'avoir quelque chose à lire. Et donc, quoi qu'il en soit, je ne réponds plus aux questions, j'en vois une arrivée. Que pensez-vous des étudiants, des jeunes qui ne vont pas à l'armée? Je suis très très étonné de votre question, mon ami, parce que j'ai tellement de cours qui parlent de ce sujet-là. Fouillez dans le site, vous verrez. Bonnes vacances, Rav Dinovitch, et merci. Je ne pars pas en vacances. Quand le Rav Dinovitch s'absente, c'est pas forcément qu'il est en vacances. Quand je partirai en vacances, je vous l'annoncerai. Mais c'est pas parce que le Rav Dinovitch n'est pas présent sur le site qu'il est en vacances. Je plaisante bien sûr à moitié, parce que quoi qu'il en soit, effectivement, je ne pars pas en vacances. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais donc résumer un petit peu le séminaire de ce soir. Finalement, il est absolument évident que quelqu'un tout à l'heure posait la question pourquoi on a commencé par Shemot, par Bereshit. J'ai répondu à ma manière, mais je pense que dans le cadre d'une conclusion, on peut répondre aussi parce que c'était le livre évidemment par lequel il fallait commencer. Nous sommes en pleine période de délivrance. Le processus de la délivrance a commencé depuis de nombreuses années. Le retour à la Torah, le retour à la terre d'Israël, la reconstruction de la nation. Il y a aussi le retour de tellement de non-juifs qui reviennent vers le peuple juif et qui reviennent sans se convertir, je parle, à la Torah d'Israël, les fameux Bnei Adam. Donc on est dans une génération du retour, et donc automatiquement c'était normal, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'était normal finalement que la Providence fasse que mon premier livre, en tout cas c'est pas mon premier livre, mais mon re-premier livre dans le cadre de mes activités actuelles, soit Shemot, qui parle bien sûr de la délivrance. Donc c'est de cette manière-là que je veux conclure. On est effectivement dans une période de délivrance. Je pense que ce livre est très important, qu'il faut le lire et le relire, qu'il faut le faire connaître à d'autres aussi. Et tous les messages de ce livre nous préparent bien sûr à vivre en étant à la hauteur de notre génération, car on vit une génération extraordinaire. Et avec tous ces drames, tous ces malheurs, tous ces monstres et tous ces crimes, mais d'un autre côté, toutes ces reconstructions, tous ces retours, toute cette lumière inimaginable que nous voyons se dévoiler jour après jour. Et donc, il faut constamment que nous nous répétions à nous-mêmes et que nous répétions autour de nous que nous sommes la génération de la délivrance. On n'est peut-être pas la seule et la dernière, mais nous faisons partie des générations de la délivrance, ça c'est une certitude. Et donc, voilà, que l'on puisse tous se renforcer encore. C'est gentil de me dire que je vous manquerai, mais je ne pars pas encore. Je ne serai absent qu'à partir de mercredi prochain jusqu'au, je vais vous dire, à partir de mercredi 25 juin. Et les cours ne reprendront que le dimanche 6 juillet. Bon, c'est pas si long que ça. Et comme on dit, des fois, l'absence permet de se retrouver plus fort encore. Donc moi aussi, de toute façon, croyez-moi, vous allez me manquer tous, parce qu'on est tous attachés très fort les uns aux autres. Et voilà, je termine ce séminaire. Merci une fois de plus d'avoir été si nombreux avec nous ce soir. Et que Dieu nous garde tous, toujours tous ensemble, et nous permette de réaliser véritablement ce que nous devons réaliser de la meilleure manière possible dans cette vie, tous ensemble, juifs et non-juifs. Amen. Vechen Yeratzon.